Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 9R3. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié en français chez Lumen, Les Carnets de l'apothicaire T02 poursuit la série de romans de Natsu et Yuga dans une cour impériale fictive inspirée de la Chine ancienne. Ce deuxième volume relève à la fois du roman de palais, du récit d'enquête et de la fantaisie historique légère. Mao Mao, jeune servante dotée de solides connaissances en remèdes, plante et poison, y est chargée de surveiller la grossesse de Dame Gyokuyo. Cette mission est délicate parce que la nouvelle doit rester secrète au sein du quartier des femmes, espace où rivalité, hiérarchie et calcul politique pèsent sur chaque geste. Le livre met donc moins l'accent sur la bataille ou l'aventure extérieure que sur l'observation précise des comportements, des symptômes et des risques. Son intérêt tient à la rencontre entre des énigmes concrètes et les contraintes sociales du palais. Le tome développe ainsi la place singulière de Mao Mao, dont la curiosité scientifique devient un instrument de survie dans un environnement gouverné par le protocole et les apparences. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, une grossesse impériale transforme le savoir médical en enjeu politique, la surveillance de la grossesse de Dame Gyokuyo donne au tome une ligne directrice claire. Dans une cour intérieure, la santé d'une favorite et celle de son enfant ne constitue jamais une affaire purement privée. Elle concerne la continuité du pouvoir, le rang des femmes du palais et les rapports de force entre leurs entourages. Mao Mao doit donc appliquer ses compétences sans attirer une attention dangereuse sur ce qu'elle sait ou sur ce qu'elle soupçonne. Le secret imposé autour de la grossesse crée une tension qui ne dépend pas seulement de la découverte d'un remède. Il faut aussi déterminer à qui parler, ce qui peut être observé publiquement et ce qui doit rester invisible. Cette configuration montre comment le roman associe le diagnostic à une lecture sociale des situations. Un symptôme peut avoir une cause naturelle, mais il peut également devenir le point de départ d'une manœuvre ou d'une rumeur. La compétence de l'apothicaire a ainsi une portée politique sans que Mao Mao devienne une figure de pouvoir officielle. Le volume met en évidence une fragilité essentielle de son rôle, elle peut protéger par son attention et ses connaissances, mais elle agit dans un système où le statut. Le sexe et la proximité du souverain déterminent fortement la valeur de chaque parole. Cette mission rend particulièrement tangible le lien entre soins, discrétion et sécurité. Deuxièmement, les énigmes reposent sur l'observation plutôt que sur la force. Le moteur du récit est la capacité de Mao Mao à remarquer ce que les autres négligent. Sa formation d'apothicaire l'oriente vers les ingrédients, les réactions du corps, les habitudes et les détails matériels. Cette attention fournit une base concrète aux énigmes. Les problèmes rencontrés à la cour ne sont pas résolus par une intuition abstraite, mais par l'examen méthodique d'indices et par la comparaison de causes possibles. Le recours au savoir médical traditionnel participe au charme de la série, tout en restant intégré à la fiction de palais. Il ne s'agit pas d'un manuel de médecine ni d'une reconstitution documentaire exhaustive de la Chine ancienne. Les connaissances liées aux plantes, aux poisons et aux soins servent surtout à structurer le raisonnement de l'héroïne et à rendre plausibles ses déductions. Cette démarche distingue Mao Mao des personnages dont la position sociale garantit automatiquement l'autorité. Elle doit convaincre par la pertinence de ses observations, souvent dans des circonstances où elle ne peut pas tout expliquer ouvertement. Pour le lecteur, les enquêtes procurent un intérêt double, suivre un danger potentiel et comprendre comment une information apparemment anodine acquiert une signification. Le tome valorise ainsi une forme d'intelligence pratique, attentive aux conséquences réelles des gestes quotidiens, plutôt que le seul prestige des intrigues de cour. Troisièmement, le quartier des femmes est un espace clos, régi par la hiérarchie et le soupçon. Le cadre du quartier des femmes ne sert pas seulement de décor exotique. Il organise les possibilités d'action de tous les personnages. Les déplacements y sont contrôlés, les rangs sont visibles et les contacts entre résidentes, servantes et responsables sont soumis à des usages stricts. Dans cet espace fermé, une information circule vite mais de façon incomplète, ce qui favorise les malentendus, les rumeurs et les calculs. La grossesse de Dame Gyokuyo accentue cette mécanique puisque son secret possède une valeur stratégique. Le récit fait sentir que les gestes les plus ordinaires, comme servir une boisson, transmettre un message ou commenter un changement de santé, peuvent devenir significatifs. Mao Mao ne peut donc pas aborder les difficultés comme elle le ferait hors du palais. Elle doit mesurer les risques liés à une accusation, à une indiscrétion ou à une intervention trop visible. Cette contrainte donne une cohérence particulière aux enquêtes du tome. Les obstacles ne sont pas uniquement techniques, ils proviennent de la structure sociale elle-même. La cour intérieure apparaît comme un lieu de dépendance réciproque, où les personnes de rang inférieur possèdent parfois des informations cruciales sans disposer du pouvoir de les utiliser librement. En plaçant une apothicaire parmi ces tensions, Natsu Yuga explore les arcanes du pouvoir impérial à hauteur de celles et ceux qui en subissent les effets quotidiens. Quatrièmement, Mao Mao incarne une héroïne compétente mais contrainte par son statut, dans ce volume. Mao Mao se définit moins par un destin exceptionnel que par une compétence difficile à exercer dans le bon cadre. Ses connaissances en pharmacopée et son goût pour l'analyse lui permettent de reconnaître des dangers que d'autres personnages ne voient pas immédiatement. Toutefois, son intelligence ne la soustrait ni aux règles de la cour, ni aux risques de la proximité avec les puissants. Elle reste une jeune femme dont la marge de manœuvre dépend de la confiance accordée par des personnes mieux placées qu'elle. Cette tension évite de faire de son savoir une solution automatique. Une conclusion juste peut ne pas être facile à formuler et une action utile peut demander prudence, patience ou discrétion. Le personnage est également original parce que son intérêt pour les substances et leurs effets nestes, pas présenté comme un ornement savant. Il structure sa manière de regarder le monde. Elle examine, distingue et cherche des causes, même lorsque l'environnement privilégie les conventions ou les apparences. Son regard parfois détaché offre un contrepoint aux passions et aux ambitions qui traversent le palais. Le tome fait donc de Mao Mao une enquêtrice crédible non par une autorité institutionnelle, mais par la constance de sa méthode. Cette position éclaire aussi le coût de la lucidité, comprendre un danger ne signifie pas toujours pouvoir le dénoncer sans conséquence. En dernier lieu, une Chine ancienne fictionnelle soutient un roman de cour accessible. Les carnets de l'apothicaire se déroulent dans une Chine ancienne fictionnelle, à la fois inspirée de références historiques et façonnée pour les besoins du récit. Cette orientation permet au volume d'installer un univers de palais cohérent sans prétendre constituer une restitution académique d'une dynastie précise. Les pratiques de soins, le protocole de la cour, la séparation des espaces et le poids de la hiérarchie donnent une texture concrète aux événements. En même temps, la fiction privilégie la lisibilité, le lecteur entre dans le fonctionnement du palais à travers les tâches et les observations de Mao Mao. Ce choix rend le cadre particulièrement efficace pour le roman à énigmes. Les règles sociales produisent des limites, tandis que la variété des rangs et des fonctions multiplie les points de vue possibles sur un même incident. Le ton ne repose pas uniquement sur la noirceur des complots. La curiosité de Mao Mao, le décalage entre son pragmatisme et les exigences du protocole, ainsi que la précision des situations quotidiennes apporte une dimension plus vive au récit. Le tome illustre ainsi la force de la série employée à un décor historique fantasmé pour donner une forme spécifique à des investigations concrètes. La cour impériale n'est pas un simple arrière-plan, elle définit ce qui peut être caché, observé, interprété ou mis en danger. En conclusion, ce deuxième tome s'adresse en priorité aux lecteurs qui apprécient les récits où l'enquête se construit à partir de détails matériels et de relations sociales, plutôt qu'à partir de scènes d'action continues. Il conviendra aussi aux amateurs de romans de palais, de fiction historique asiatique et de personnages féminins dont la compétence repose sur le savoir et la méthode. La lecture offre un intérêt intellectuel concret, elle invite à suivre une chaîne de raisonnement fondée sur les symptômes, les substances, les usages et les conséquences possibles d'une indiscrétion. Elle montre également comment un environnement hiérarchisé modifie la circulation de l'information et complique même les gestes de protection les plus élémentaires, par rapport à de nombreux récits de cour centrés sur la romance ou les affrontements directs. Les carnets de l'apothicaire se distinguent par la place accordée à l'apothicairerie et aux mécanismes de déduction. Le palais y devient un espace d'enquête où la médecine traditionnelle, les risques d'empoisonnement et les rivalités de rang se répondent. Le volume ne transforme pas Mao Mao en héroïne toute puissante, ses capacités restent dépendantes de la prudence requise par son statut. Cette limite renforce la crédibilité de l'attention. Pour les lecteurs déjà engagés dans la série, le tome approfondit naturellement le cadre et les enjeux liés à Dame Gyokuyo. Pour un public attiré par les intrigues minutieuses, il illustre une combinaison identifiable mystère, observation scientifique et politique intime de la cour impériale. Si vous souhaitez soutenir Natsu Yuga, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.